Catherine le matin jusqu'à 9h30. Vous écoutez. Que la Mauricie se lève. Voici Catherine Gaudreau.
Bonjour Madame Saint-Jacques.
Oui, bonjour.
Bonjour. Donc, ces femmes-là, il y en a plusieurs qui témoignent sous le couvert de l'anonymat, qui dénoncent un climat malsain qui les garde dans un état d'anxiété constant. Pouvez-vous nous en dire davantage? Donc, c'est l'association étudiante là, qui est comme l'instigateur de tout ça. Mais comment ça s'est formé, ce groupe-là, Madame Saint-Jacques?
On m'a contacté en novembre dernier pour essayer de me demander de l'aide dans le cadre des revendications pour avoir des meilleures conditions d'études, qui passent notamment par la rémunération des stages selon l'Association des étudiantes. Au début, je ne savais pas trop comment les aider, puis il y a une étudiante qui a eu un problème administratif avec le programme. Alors, j'ai pris la balle au bon, puis j'ai essayé de l'aider. On a réussi à faire renverser une décision discriminatoire dans son cas. Et le mot s'est donné au sein de l'association étudiante que je pouvais venir en aide à d'autres étudiants qui rencontreraient des problèmes similaires. Et puis là, vous imaginez le fleuve qui s'est mis à arriver. Il y a 45 femmes qui m'ont contacté, des étudiantes qui ont passé par le programme de formation au cours des 2 dernières années, donc de 2008 à 2018. Par manque de temps, j'ai fait 37 entrevues, mais j'aurais pu en faire beaucoup plus. Puis ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg, puisque toutes ces démarches-là ont été faites en secret. Comme la crainte de représailles de la part du programme était omniprésente, autant chez les étudiantes que les graduées, la plupart des femmes, comme vous le disiez très bien, ont demandé l'anonymat. Donc, si cette démarche-là avait été rendue publique, je pense que j'aurais eu d'autres en plus de témoignages. On parle de 45 femmes qui ont contacté sur une pratique qui en contient 224. Donc, okay. Ça donne une idée de la pointe de l'iceberg que je décris.
OK, parce que là, je lisais, bon, j'ai pas lu tout le rapport, mais dans ce que j'ai pu lire, il y a toutes sortes de cas différents, là, ce qui est décrit. Entre autres, il y a une étudiante qui raconte, qui avait annoncé sa grossesse, qui s'est vue interdire de commencer son stage et de poursuivre ses cours. Il y en a une autre qui affirme avoir vécu un traumatisme lors de son stage en Afrique et qu'elle n'aurait pas eu le soutien psychologique adéquat. Alors, il y a, de ce que je comprends, plusieurs, c'est du cas par cas, là. C'est des cas qui peuvent être très différents les uns des autres.
Oui et non, parce que comme il y a 37 témoignages sur une période de 10 ans, en fait, vous avez probablement eu accès à la version courte du rapport, ouais. Mais la version longue fait 135 pages.
Oh, okay.
Elle contient les mêmes 120 recommandations qui sont dans le rapport court. Et pour chacun des items discriminatoires ou de harcèlement psychologique, en fait, il y a plusieurs témoignages. Donc, on n'est plus dans le cas par cas, on est dans un enjeu qui est systémique. Et c'est ce que j'ai tenté de démontrer avec mon rapport en allant recueillir des témoignages qui, finalement, couvrent une grande période de temps. C'est pas un enjeu qui est récent. On parle de quelque chose qui s'est cristallisé au sein de l'administration du programme et qui a un effet très, très malsain sur le parcours des étudiantes. Des 37 femmes que j'ai interviewées, il y en a 10 qui ont vécu, qui ont eu des arrêts maladie, notamment liés à des épuisements professionnels. Mais si elles prennent plus que 6 semaines d'arrêt, elles subissent des échecs. Alors que quand on a un arrêt maladie, il y a plein d'autres cas qu'on pourrait utiliser, par exemple un incomplet ou un reporté ou un abandon de formation d'échec. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au baccalauréat en pratique sage-femme, on a droit à un échec.
Okay.
Donc ces filles-là se faisaient couler. Par exemple, une femme qui a accouché avant la fin de son stage, au lieu de reporter la fin du stage, on lui mettait simplement une mention d'échec.
Mais est-ce que c'est différent des autres programmes, Mme Saint-Jacques? Est-ce qu'ailleurs, puis je pourrais poser la question au recteur, mais est-ce que dans les autres programmes, on a le droit à plus d'échecs que ça?
Oui, définitivement.
Oui. Ah,
en
oui?
médecine, c'est similaire, par contre.
Okay.
Donc, il n'y a pas nécessairement d'enjeu à ce niveau-là. Par contre, l'effet que ça a, c'est que les étudiantes se sont discriminées basées sur la grossesse et ou le handicap et ou la maladie, et qu'à leur retour, elles sont pénalisées par cet échec-là qui pèse sur elles comme une épée de Damoclès et qui est aucunement lié à leur capacité clinique ou à leur capacité à devenir une sage-femme. L'autre enjeu qu'il y avait dans le rapport que je soulignais, c'est qu'à leur retour, elles sont considérées en cheminement particulier. Le cheminement particulier, c'est quelque chose qui existe dans tous les programmes de formation, qui fait juste signifier que la personne a pris un temps d'arrêt dans sa formation. Par contre, au programme en pratique sage-femme, lorsqu'on fait des placements de stage, il faut comprendre que les étudiantes vont faire 7 stages à travers le Québec. On leur demande d'être au moins dans 2 régions du Québec. Donc, il faut qu'elles se déplacent à leurs frais.
Mm-hmm.
Elles ne sont pas rémunérées pendant leurs 2350 heures de stage. Mais quand elles reviennent d'un congé de maladie ou d'un congé lié à une grossesse, par exemple, les règlements du programme disent qu'elles vont être les dernières placées.
Mais Mme Saint-Jacques,
donc,
dernière
elle est là, la discrimination.
Je m'excuse, je ne voulais pas vous couper. Dernière question pour vous. Parce que je lisais hier et vous le disiez, vous avez tenté d'obtenir le point de vue des administrateurs du programme et de ce que je comprends, vous avez essuyé un refus. Mais les jeunes femmes, là, sur une période de 10 ans, est-ce que certaines ou même la plupart d'entre elles avaient sonné l'alarme à quelqu'un du programme, notamment, parce que nous, ici, on a un stagiaire. Il y a toujours un parrain de stage, quelqu'un qui coordonne. Donc, s'il y a une problématique, il peut s'adresser directement à cette personne-là. Et si jamais il y a une problématique majeure, bien, ça va jusqu'à la direction. Est-ce que ces jeunes femmes-là avaient sonné l'alarme auprès soit du programme ou de l'université?
Définitivement. En fait, moi, j'ai épluché les différents procès-verbaux des comités de programme depuis 2012. Et à tous les ans et demi à deux ans, ces enjeux-là étaient ramenés par les étudiants qui demandaient des changements et la réponse était systématiquement non ou on ne peut pas le faire pour des questions juridiques, ce qui finalement était une interprétation erronée de la Charte des droits de la personne. Okay. Donc, les étudiantes ont tenté et c'est pourquoi elles sont venues me voir l'automne dernier parce qu'elles devaient sortir du milieu pour être capables d'avoir quelqu'un pour les aider. Mmh. Et elles sont, laissez-moi le souligner, épuisé. Les étudiants travaillent environ 60 heures semaine. Donc, okay. Porter des charges comme ça devient encore plus ardu. Mmh. Et elles ont essayé, ils ne sont pas arrivés.
OK. Madame Saint-Jacques, un gros merci d'avoir vulgarisé ça pour nous ce matin.
Ça fait plaisir.
Merci, au revoir. Hélène Saint-Jacques, analyste stratégique et doctorante en analyse de politique publique.